Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Nathalie Jovanovic-Fleuricourt, spécialiste de généalogie génétique et co-autrice avec Jean-Louis Bocarnot du livre « Quoi de neuf dans la famille » paru récemment aux éditions Buchet-Chastel. Nous lui avons posé les questions suivantes. Qu'est-ce que la généalogie génétique? Pourquoi faire un test de généalogie génétique peut-il être utile? Pourquoi la France maintient-elle toujours l'interdiction de ces tests? Les porteurs d'un même patronyme sont-ils cousins? Quelles sont nos origines? Les races existent-elles vraiment? C'est tout de suite sur Blooming You. Bonjour Nathalie!
Bonjour Amal!
Alors Nathalie Jovanovic-Fleuricourt, vous êtes spécialiste de généalogie génétique et co-autrice du livre « Quoi de neuf dans la famille » avec Jean-Louis Bocarnot aux éditions Buchet-Chastel.
N'est-ce pas? C'est bien cela.
Voilà. Alors, Nathalie, moi, la première question que j'ai envie de vous poser suite à la découverte de votre livre, c'est qu'est-ce que la généalogie génétique?
La généalogie génétique est la possibilité de retrouver ses ancêtres par un test ADN. On retrouvera, entre guillemets, deux types d'ancêtres. Les ancêtres les plus récents, c'est-à-dire au minimum jusqu'à 6 générations nous précédant.
D'accord.
Et 7, 8, voire 10 générations, voire plus. Et nos ancêtres archéologiques, c'est-à-dire les ancêtres qui ont vécu il y a 20 000, 40 000 ans et qui sont dans deux types d'ADN spécifiques. Pour les hommes, le chromosome Y, qui est transmis uniquement par les hommes de père en fils. Et pour les hommes et les femmes, l'ADN mitochondrial, qui correspond uniquement à la mère de la mère de la mère, l'axe maternel. En fait, on ne va pas retrouver ces ancêtres, on va retrouver des cousins génétiques qui ont des parties d'ADN en commun avec nous et qui sont reliées par un ancêtre. Et c'est en cela qu'on parle de généalogie génétique.
Donc, très concrètement, moi, si je veux, demain, je peux faire un test de généalogie génétique que je ne peux pas faire en France.
Qui est disponible uniquement dans les laboratoires étrangers. Puisqu'effectivement, en France, tout test réalisé par un individu par sa volonté seule est interdit. On est soumis à l'autorisation d'un médecin pour un test génétique médical. On ne peut pas faire un test génétique médical seul, il faut qu'un médecin le prescrive. Et dans les cas judiciaires, un test de paternité, c'est quand on oblige un homme, généralement, qui ne le veut pas, à faire un test afin de définir s'il est le père d'un enfant illégitime ou non reconnu. Donc, il n'y a que le juge et le médecin qui peuvent autoriser à faire des tests. Si nous, en tant qu'individu, même sur notre ADN, on veut faire un test, c'est formellement interdit. C'est normalement une amende de 3750 euros. Qui n'a jamais été appliqué, jamais. Aucun individu en France n'a jamais eu cette amende. Et donc, en fait, c'est une interdiction qui est virtuelle et qui n'empêche en rien les 1,5 million de Français qui ont déjà fait un test ADN de l'avoir fait, de recevoir le test d'un laboratoire étranger directement dans sa boîte aux lettres et de le renvoyer sans aucun souci. La seule chose que ça empêche, c'est simplement des sociétés françaises. Alors, je dis simplement, ce n'est pas si simple que ça, parce que finalement, c'est une concurrence déloyale. Les laboratoires étrangers peuvent vendre des tests ADN en France sans problème. On peut faire un test ADN, en fait, sans problème. Il n'y a que les sociétés françaises qui, elles, risqueraient très gros à vendre un test ADN et qui ne peuvent pas le faire.
Comment vous expliquez le maintien de l'interdiction des tests généalogiques génétiques en France ?
Comme une tentative désespérée de repousser l'inéluctable. Parce que la France est un des derniers pays au monde, c'est même pas en Union européenne, c'est vraiment au monde, à interdire les tests ADN DTC, on appelle direct to consumer, des que chaque individu peut faire. En Union européenne, il n'y a que deux pays, la Pologne et la France. C'est incompréhensible. Après, pourquoi est-ce qu'il y a une telle réticence des députés, des sénateurs et pas de tous, puisque les deux commissions de bioéthique du Sénat et du Parlement se sont prononcées pour la légalisation de ces tests, et pas seulement la légalisation, leur encadrement, justement, dans des règles qui correspondent à la protection des données personnelles, à la protection de nos informations qui peuvent être sensibles. Donc, dans un cadre qui est plutôt bienvenu. Pourquoi est-ce que certains députés et sénateurs s'y opposent? Alors, de ce que j'ai pu découvrir en les approchant, essayant de les convaincre, c'est beaucoup par méconnaissance de la loi française. Il y a des craintes parce qu'on ne connaît pas. Donc des craintes, des peurs, de se dire les données peuvent être utilisées parce qu'elles comportent aussi une part d'information médicale à notre détriment, alors que c'est prévu de longue date dans la loi française, dans la loi internationale, que on n'a pas le droit d'utiliser cette information. C'est ce qu'on appelle la non-discrimination génétique. Alors, j'informe vos auditeurs, vos auditrices, d'ailleurs, qu'un assureur ne peut même pas vous poser la question, juste la question, de savoir si vous avez fait un test ADN. Il est dans l'illégalité, il fait la discrimination génétique, il peut être puni et poursuivi pour cela. Et ça, les députés et les sénateurs ne le savent pas. Donc, ils se disent, si on autorise des tests et qu'il y a des informations, les assureurs, éventuellement, vont pouvoir l'utiliser contre nous, alors que c'est totalement interdit et impossible. Donc, c'est vraiment de la méconnaissance du fonctionnement de tout cet aspect-là, et c'est pour ça que j'essaye de l'expliquer, de donner des informations, de faire des actes de pédagogie de tout ce que j'ai appris par moi-même, parce que moi, je suis une passionnée de génétique, mais je ne suis pas une généticienne, et de le transmettre pour donner la bonne information, preuve à l'appui, ce qui est expliqué dans l'ouvrage, avec les articles de loi concernés, avec les articles du Code civil, pour donner vraiment tout le contexte juridique, mais aussi social, psychologique, autour de tous ces tests.
Alors, pourquoi faire un test de généalogie génétique aujourd'hui? Quelle est la motivation des 1 500 000, 1 500 000 Français qui, chaque année,
Les motivations sont diverses. Il y a plein de profils différents. Il y a le profil qui va être le plus répandu, qui va être juste le côté amusement sur les origines ethniques. C'est ce qu'il parle le plus, c'est quelles sont mes origines ethniques, d'où je viens, et c'est d'avoir ce résultat qui va s'afficher sur l'écran avec des pourcentages divers et variés et qui correspondent à nos ancêtres. C'est le côté ludique. Est facile parce que finalement, se prendre un petit coton-tige, mettre dans la bouche, comme dans Les Experts, on a l'impression de participer à la série télé et de le renvoyer, d'avoir ses résultats, c'est assez incroyable et assez amusant. Donc, il y a cette partie qui est très, très, très présente parmi les personnes qui sont testées. Après, il va y avoir aussi une partie qui est, alors là, qui n'a plus rien de ludique, qui est un besoin vital, fondamental pour des personnes qui ne connaissent pas leurs origines. Et ça peut être pour les adoptés, nés sous X, de faire un test ADN afin d'identifier leurs parents biologiques. Et là, c'est un besoin vital parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens que le test ADN pour pouvoir les retrouver et connaître leur histoire familiale. Et après, ça peut être aussi, et moi c'est ce que j'ai constaté, que cette souffrance, que c'est une vraie souffrance et un vrai besoin de connaître ses origines, se transmet aussi aux descendants. C'est-à-dire que j'ai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui ont un ancêtre inconnu, qui a été adopté, ou un père naturel inconnu. Le père n'a jamais reconnu l'enfant et il n'y a aucune trace dans les archives, aucune trace écrite qui permette de l'identifier. Le test génétique va être le seul moyen de réussir à identifier les parents biologiques, le père naturel non déclaré de son ancêtre. Et là aussi, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'interrogations parce que pour ces descendants, c'est une part de leur identité qui leur manque sans cette information. Et ils en ont besoin. Et le test ADN est vraiment le seul moyen. Et ensuite, ça peut être pour d'autres aussi, simplement de compléter leur arbre généalogique, qu'ils soient, alors généralement, ce sont des généalogistes passionnés, parce qu'on ignore souvent qu'on peut avoir des ancêtres qui se sont installés dans d'autres régions de France, voire dans d'autres pays. Il y a beaucoup de gens qui ont des surprises de découvrir des cousins génétiques dans des pays exotiques où ils n'auraient jamais imaginé et jamais faire de recherche, jamais fait de recherche autrement. Et donc, ils découvrent qu'il y a un ancêtre dont ils ont vu la naissance, un arrière-arrière-grand-oncle, ils ont l'acte de naissance et ils n'ont plus de traces. Eh bien, l'arrière-arrière-grand-oncle ou l'arrière-arrière-grand-tante s'est installé à l'étranger, a des descendants et ils le retrouvent par les tests génétiques. Et là, il y a le travail de retrouver quel est cet ancêtre qui est parti, parce que souvent, il a changé de nom. C'était une pratique très, vraiment très habituelle pour nos ancêtres, que nous, on a du mal à comprendre, mais qu'il faut se remettre en perspective. Au 19e siècle, au 18e siècle, il n'y avait pas de carte d'identité, il n'y avait pas de passeport, les identités n'étaient pas figées. Et quand on s'expatriait, pour mieux s'incorporer dans la population qu'on rejoignait, on changeait de nom, tout simplement. Nathalie Jovanovic, si je m'étais installée aux États-Unis, serait peut-être devenue, alors c'est un mauvais exemple aux États-Unis parce qu'ils ont déformé les noms, mais si je m'étais installée en Italie, serait peut-être devenue Natalia Yava, ou un nom de consonance italienne, et ainsi de suite pour tous les pays. Et donc, on ne fait pas forcément le lien par le nom. On ne fait pas forcément le lien par les informations qui sont données par les ancêtres qui sont installés parce qu'ils ont parfois menti pour mieux se fondre ou par simplicité plutôt que de donner une information qui était un peu trop complexe. Du coup, il n'y a pas le moyen de faire le lien. Et le seul lien qui va être, ça va être le lien génétique, le lien biologique qui ne ment pas et qui indique très clairement qu'il y a une parenté. Il suffit après, alors il suffit, c'est simple en théorie, ça va être plus compliqué, c'est là où intervient la généalogie génétique, où il y a des techniques, des moyens, des fonctionnements de nos chromosomes qu'on doit connaître. Mais vraiment, je rassure les personnes, c'est très simple, hein, c'est vraiment du niveau CM2. Ça m'est accessible, c'est accessible à tout le monde, vraiment. Et simplement, une fois qu'on comprend le fonctionnement et qu'on peut utiliser des outils, des techniques de généalogie génétique pour identifier l'ancêtre commun plus facilement à partir aussi des arbres généalogiques. La généalogie génétique fonctionne par comparaison. On compare son ADN à celui des autres. Et quand on a des segments d'ADN en commun, on a un lien de parenté, plus ou moins proche. Et on va comparer les arbres généalogiques pour retrouver l'ancêtre commun qui nous relie à nos cousins génétiques.
Mais alors, du coup, est-ce que ça veut dire que les porteurs d'un même patronyme sont forcément cousins?
Du tout, du tout, du tout.
Non, du coup.
Mais non, ça serait trop simple, ça serait trop simple, on ne s'amuserait pas. Non, mais par contre, ce qui peut aussi s'avérer, c'est que on peut avoir des patronymes différents et être reliés par le même père. C'est ça aussi qui va être intéressant. Et on peut avoir des patronymes communs et n'avoir aucun lien génétique, aucun lien familial. Donc c'est là où justement la génétique va intervenir pour apporter ces précisions et pour créer des liens là où on n'imagine pas qu'il y en a, ou révéler qu'il n'y a pas de lien là où on imagine qu'il y en a.
D'ailleurs,
Voir les deux situations. Pardon.
dans votre livre, on apprend, enfin j'ai appris que l'origine de la majorité des Britanniques est africaine. En fait, leurs ancêtres sont
Mais
noirs.
il n'y a pas que les Britanniques, nous venons tous d'Afrique. C'est une des révélations majeures de la génétique et qui a changé la vision qu'avait l'anthropologie de l'histoire de l'humanité. Et ça a été prouvé génétiquement. Nos ancêtres venaient tous d'Afrique. Ils ont fait une migration. Certainement liés aux conditions climatiques, aux conditions de vie. On va chercher un avenir meilleur. Ils se sont déplacés et ils ont sur des centaines de milliers d'années. C'est assez incroyable. Ils sont partis du sud de l'Afrique pour remonter vers le nord et se disperser sur tous les continents, réellement, puisqu'ils sont même remontés par la Sibérie jusqu'en Amérique, qui était encore à l'époque reliée par la Terre. Et donc, on retrace ça à travers l'ADN, on peut retracer le parcours de l'humain qui a fait tout ce trajet et qui est donc arrivé en Europe en ayant encore cette couleur de peau foncée. Et d'ailleurs, il faut que nous apprenions tous à changer notre vocabulaire parce qu'on a été tous éduqués, et moi-même je me reprends souvent, parce qu'on a été éduqués avec cette idée qu'il y a des races. Qu'il y a des races différentes humaines, et la génétique le prouve bien, il n'y a qu'une seule race, il y a l'espèce humaine. Il n'y a qu'une seule race, l'espèce humaine, il faut vraiment que le répéter et bien, et on s'en rend compte quand on fait un test génétique. Et donc, cette espèce humaine s'est dispersée sur Terre avec des caractéristiques physiques, pardon, qui se sont différenciées par rapport à son environnement. On s'est adapté à son environnement. Et notre ancêtre africain qui est arrivé en Europe, où il y a moins de soleil, sa peau s'est éclaircie. Donc, en fait, on ne devrait pas dire qu'on a la peau noire, la peau blanche, on devrait dire qu'on a la peau de couleur foncée, avec des variations énormes de couleur de peau foncée ou de peau plus claire, faute de vitamine D et faute d'ensoleillement. Et donc, nous avons tous des ancêtres africains. Qui se sont installés en Europe et dont nous sommes issus, et qui ont formé des groupes différents que l'on peut identifier, qui se sont plus installés en Europe de l'Ouest, en Europe du Nord, en Europe du Sud et en Asie, etc., etc. Donc, effectivement, l'homme de Cheddar dont vous parlez, dont on a retrouvé le squelette. Ce qui est amusant, c'est que quand ils en ont fait, les anthropologues en ont fait une reconstitution physique en imaginant à quoi il ressemblait dans les années 70-80, ils l'ont imaginé à la peau claire, ils ont même retrouvé ses descendants avec qui ils ont comparé la reproduction qu'ils avaient fait, la reconstitution avec ce descendant. Et grâce à l'ADN, ils ont pu reconstituer son apparence physique réellement par rapport à quoi il ressemblait. Et effectivement, il avait la peau foncée, très foncée, et les yeux bleus. Et c'est là où on voit qu'on projette des préjugés, des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Et l'ADN nous ramène à la réalité de ce qu'est l'être humain.
Donc nous sommes tous africains.
Nous sommes tous africains, il n'y a aucun doute. Pour le sujet. Et le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Mais après, ce berceau de l'humanité qui s'est répandu dans le monde a rencontré des cousins différents, des cousins de l'hominidé. Il a rencontré l'homme de Néandertal en Europe, l'homme de Denisova en Asie, et d'autres hommes dont on a retrouvé des traces d'ADN, on appelle ça des traces d'ADN fantômes dans l'ADN d'Africains, et dont on n'a pas retrouvé d'ossements, mais on sait qu'ils ont existé et qu'ils se sont pour le coup métissés avec l'Homo sapiens dont nous sommes majoritairement issus. Et donc là, il y a eu des métissages avec l'homme de Néandertal qui, pendant très longtemps, a été considéré comme une brute épaisse. C'était un peu l'homme de Cro-Magnon aussi. Dans l'imaginaire collectif, l'homme de Néandertal, il était finalement pas adapté à son environnement, il a disparu parce qu'il n'était pas assez fort par rapport à nous, l'Homo sapiens, qui sommes arrivés et qui l'avons, entre guillemets, dominé. Et on s'est rendu compte par l'analyse génétique, nous avions des traces d'ADN qui va varier pour les Caucasiens entre 1 et 2%, et qu'on a pris les caractéristiques, les mieux a priori, qui nous ont permis de mieux nous adapter à notre environnement, à mieux survivre, puisque c'est en fait l'espèce humaine, comme toute espèce, ne vise qu'à une chose, c'est survivre, s'adapter à son environnement et survivre. Et donc, on a pris de l'homme de Néandertal sa résistance au froid, sa plus grande adaptabilité, aussi des facteurs qui vont être amusants d'avoir plus ou moins de cheveux sur le crâne. C'est issu de l'homme de Néandertal, quelques petites caractéristiques comme ça. Mais c'est vraiment, en fait, pour s'adapter à son environnement et survivre. C'est l'espèce humaine, c'est vraiment Et l'ADN, on le voit bien, c'est s'adapter. Les gènes s'adaptent. Ceux qui survivent sont ceux qui sont le plus résistants par rapport à tous les facteurs qui vont être de climat, qui vont être de comment trouver sa subsistance, comment trouver la nourriture, donc d'être le meilleur chasseur, ou celui qui, après, va inventer l'agriculture, qui va demander des caractéristiques différentes. Nos ancêtres sont ceux qui étaient les mieux adaptés à tous ces phénomènes-là, à tout cet environnement.
D'accord. Vous faisiez le lien entre la généalogie et la génétique, mais aussi l'épigénétique. Vous pourriez nous en dire un peu plus, puisque vous reprenez l'exemple notamment d'Angelina Jolie, entre autres, dans le livre, et son opération suite au fameux gène familial, qui est à l'origine de cancer du sein sur 3 générations chez elle, je crois, si mes souvenirs sont bons, de femmes. Et du coup, oui, je suis très curieuse d'avoir vos lumières et connaissances sur le sujet. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Quel est le lien entre la généalogie et la génétique, on l'a compris, et l'épigénétique? Déjà, est-ce qu'on peut redéfinir ensemble l'épigénétique pour ceux qui nous écoutent?
Alors, ce qui s'est passé avec la découverte de la génétique, qui finalement est assez récente, puisqu'on a décodé le génome complet de l'être humain seulement en 2003, ce qui est finalement assez récent. Il faut rappeler que ce sont plusieurs milliards de lettres qui ont été décodées et autant d'informations à mettre en forme, à comprendre. On a en fait l'alphabet de notre existence. Et quand ce génome a été finalement décrypté, on est vraiment parti sur une idée sur laquelle beaucoup de personnes sont restées et qui est en partie fausse, et donc je vais essayer de rétablir les choses, qui est qu'il y a une forme de déterminisme absolu, puisqu'on a les informations dans les gènes. On a les fonctionnements des chromosomes, on a ceux qui vont peut-être donner des maladies, dont le cancer du sein, le gène BRCA1 et BRCA2, gène cancer du sein, génétique, héréditaire, et cancer des ovaires, et d'autres maladies génétiques. Donc, on est parti sur l'idée que tout est écrit dans les gènes et on n'a pas le choix. Et si on a une maladie qui est écrite dans les gènes, on va forcément en hériter. Et avec cette crainte, effectivement, de se dire, c'est inéluctable, on n'y réchappera pas. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. On s'est rendu compte après coup, c'est là où intervient l'épigénétique, qu'il y a des gènes que l'on a effectivement qui fonctionnent et qui vont être soit bien fonctionner, nous protéger, soit être déficients et provoquer des maladies. Mais certaines, et ça s'est révélé notamment chez les jumeaux, des jumeaux identiques, c'est-à-dire ayant exactement les mêmes caractéristiques génétiques, des jumeaux ou jumelles va déclencher une maladie génétique et l'autre pas. Et là, c'est incompréhensible puisqu'ils ont le même capital génétique. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle l'épigénétique. On a le capital génétique, c'est une chose, c'est écrit, mais il va s'exprimer différemment suivant les individus. Et cette expression qui s'appelle l'épigénétique va être fonction de notre mode de vie, mais aussi de notre environnement. Notre mode de vie, ça va être est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on s'alimente de telle ou telle façon. Notre environnement, ça va être on ne vit pas et on ne mange pas de la même façon si on est en Europe ou si on est en Asie. Si on est soumis à de la pollution ou à des facteurs de stress, par exemple, et tout ça va modifier la façon dont notre gène fonctionne. Ça va le modifier de façon négative par des maladies, par des stress, par aussi la transmission d'une mémoire traumatique. Ça a été prouvé grâce à l'épigénétique. Alors, on se souvient surtout des côtés négatifs. Il faut aussi insister sur le côté positif. Le côté positif, c'est que l'épigénétique peut modifier un gène qui fonctionnerait mal, peut le rectifier de façon positive à n'importe quel moment. Et ça donne plutôt de l'espoir. Donc, on se sent centralise parfois sur le côté négatif, j'aimerais qu'on voit aussi le verre à moitié plein. On peut changer des facteurs négatifs de façon positive par l'épigénétique, ce qui ouvre aussi tout un grand volet d'espoir pour l'avenir.
Un exemple.
Alors, c'est. Alors, malheureusement, on travaille plus sur les facteurs négatifs, dirais-je. C'est par exemple si il a été prouvé que il y a eu une étude lors des attentats de 2011 aux États-Unis, les femmes qui étaient enceintes, qui ont eu un stress post-traumatique, ont transmis à leur fœtus leur stress. C'est-à-dire que les enfants sont nés avec des taux hormonaux qui prouvaient qu'ils avaient ingurgiter le stress de leur mère. Mais par exemple, si la femme qui était enceinte à ce moment-là est bien accompagnée, c'est-à-dire qu'elle a une thérapie qui réussit à gérer son stress et à régler son problème, le fœtus ne l'aura pas. Il naîtra sans ce facteur traumatique parce que la mère aura réglé le problème. Donc, en fait, et c'est pour ça aussi d'ailleurs, alors c'est valable pour la mère, mais c'est valable aussi pour le père, parce que le père va transmettre cet élément dans les spermatozoïdes. Si un père enfante avant ou après un stress, les spermatozoïdes ne transmettront pas les mêmes facteurs génétiques, les mêmes informations. Mais on peut le régler. On peut en hériter, mais on peut le régler aussi une fois qu'on l'a compris et qu'on fait un travail sur soi et ne pas le transmettre. Donc c'est vrai que ça mène à la psychogénéalogie, à la psychogénétique, dirais-je, de se dire qu'on hérite de nos ancêtres, pas seulement de la génétique, mais on hérite aussi d'une partie de leur traumatisme, d'une partie de leur mémoire, de façon aléatoire. On n'est pas égaux non plus entre frères et sœurs, puisque on reçoit seulement 50% de chacun de nos parents. Ça, c'est sûr, définitif, inéluctable. Nous avons 50% de l'ADN du père, 50% de l'ADN de la mère. Et ensuite, sur les grands-parents, on va avoir, normalement, on a quatre grands-parents, 25%. Mais là, ça devient plus aléatoire. Ça peut être 20% d'un grand-père et 30% d'une grand-mère. On ne sait pas, c'est le hasard biologique. Mais en tout cas, on a 50% de l'ADN du père, 50% de l'ADN de la mère. Mais les frères et sœurs vont avoir aussi 50% environ, mais 50% qui vont être potentiellement différents de ce que nous avons hérité. Donc on va avoir une partie commune avec les frères et sœurs et une partie complètement différente. Et là aussi, les frères et sœurs vont avoir un héritage différent, une histoire différente en fonction de ce qu'ils auront hérité comme information des parents. Et cette information va être différente suivant que on est né avant ou après un traumatisme. Mais est-ce qu'on va hériter du traumatisme? Rien ne le dit que dans les 50% qu'on va hériter, on héritera des gènes liés à ce traumatisme. Donc, il y a tellement de paramètres différents, de multitudes de paramètres différents, que ça en devient très compliqué à analyser. Et c'est pour ça que les généticiens qui aujourd'hui travaillent sur ça ont besoin d'intelligence artificielle pour avoir analysé non seulement les quelques 25 000 gènes que nous avons, et leur interaction entre eux, déjà les gènes, les interactions avec l'environnement, les interactions avec les facteurs qu'on n'envisage pas, qui peuvent être des facteurs de pesticides, de perturbateurs endocriniens, donc qu'il a été prouvé que ça avait une influence sur les gènes et que ça modifiait les gènes. Tous ces facteurs-là qui vont se compter en centaines de milliers, en fait, vont donner un résultat différent sur les personnes. Et tout le travail du généticien, ça va être de le comprendre, de l'identifier, tous ces mécanismes, pour éventuellement les modifier, les changer, pour améliorer notre bien-être. Alors, la génétique est malheureusement encore aujourd'hui, a besoin d'immenses moyens, l'épigénétique encore plus. Et aujourd'hui, ce sont un peu les parents malheureux qui se plaignent de manquer de moyens, pour travailler sur ce domaine qui est très complexe.
Oui, parce que c'est une science qui est encore très jeune, hein. Ça a une décennie tout ça.
20 ans sur les gènes et oui, 10 ans environ sur l'épigénétique. Et quand on voit la complexité que ça représente, c'est pas grand-chose. en fait. On a l'impression que c'est énorme, mais en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Et le champ de découverte est encore immense, on n'arrête pas de le faire. Et donc, pour revenir, pour répondre à votre question sur Angelina Jolie, effectivement, elle a ce gène BRCA1, BRCA2, qui provoque un cancer du sein avec une probabilité qui est suivant les types de cancers de 80%. Et ça porte à polémique parce que certains oncologues disent c'est une probabilité, certes importante, 80% c'est quand même conséquent, mais est-ce qu'il faut faire ou pas en mesure préventive l'ablation des seins, ce qu'elle a fait, pour éliminer tout risque de développer le cancer? Après, c'est propre à chacun de pouvoir ou pas gérer cette épée de Damoclès qu'on a à vie au-dessus de sa tête et de se dire est-ce que je suis prête ou pas à vivre avec ou est-ce que je préfère avoir cette assurance de ne pas le développer en faisant éliminer la potentielle source de maladie.
Oui, mais du coup, la question, c'est est-ce qu'on en a quand même, malgré tout, la complète assurance d'éliminer l'expression de la maladie, même après une ablation des seins, parce qu'il y a aussi le risque des ovaires, donc il faut tout enlever. Dans le cas concret d'Angelina Jolie, qui est un cas, moi, qui à titre perso me parle.
C'est là où il faut vraiment, alors sur le domaine de la génétique médicale, c'est tellement complexe qu'il faut vraiment, pour moi qui ai un peu ce recul et qui suis arrivée sur l'état génétique par rapport à une interrogation médicale aussi, puisque mon père est décédé en 2008 d'un cancer qui était potentiellement héréditaire et j'ai fait un test génétique à l'étranger pour savoir si j'avais les gènes. Donc je connais bien cette problématique et ces interrogations qu'on peut avoir. C'est tellement complexe, il peut y avoir tellement de facteurs, et qu'il faut vraiment avoir le conseil d'un généticien qui va donner tous les paramètres, qui va nous donner aussi tous ces phénomènes d'incertitude. Parce que quand on parle de génétique, dans l'inconscient collectif, on a vraiment l'impression que c'est du déterminisme, que c'est figé, alors que ce n'est pas parce qu'on a un gène que ce gène va se mettre à fonctionner, voire à dysfonctionner. Pas forcément. On peut porter ce gène. Alors après, il y a des statistiques parce qu'il y a certaines maladies génétiques qui sont plus ou moins effectivement inéluctables, où on a des statistiques qui sont suffisamment fortes, mais pas toutes. Et pour beaucoup, on n'a pas aussi suffisamment d'informations. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte. On a l'impression qu'à partir du moment où c'est écrit dans les gènes, c'est on n'y réchappera pas, c'est le destin, alors que non. Ça dépend des maladies.
Vous
Ça
croyez?
dépend de notre récit, de notre état de connaissance sur ces maladies, sur les facteurs génétiques. On peut porter des gènes qui vont nous protéger des gènes défectueux. Mais simplement aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut prendre en compte vraiment, 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 on est toujours dans le domaine de la recherche. Et on a besoin de moyens de données génétiques déjà, de profils génétiques, d'informations génétiques pour étudier toutes les corrélations entre le facteur génétique, l'épigénétique, le facteur culturel, le mode de vie, et de voir ce qui va protéger, ce qui va aggraver éventuellement les maladies. Et ça demande des moyens que l'on n'a pas aujourd'hui et qu'on ne peut pas s'accorder aujourd'hui, sauf dans quelques rares cas. Alors, on peut d'ailleurs signaler, et je le signale vraiment, que le Téléthon en France, l'AFM Téléthon, fait un travail merveilleux sur les maladies génétiques rares. Et il faut, parce que les laboratoires ne se penchent pas forcément sur les maladies génétiques rares qui ne vont pas rapporter d'argent, parce que, enfin, elles vont concerner quelques personnes, quelques dizaines de personnes, voire quelques milliers de personnes, ce n'est pas rentable pour eux, et c'est très important, mais que nous sommes tous concernés en fait par les maladies génétiques, potentiellement. Toute notre histoire peut être liée à des facteurs génétiques, mais qu'on ne l'a pas encore découvert, le fonctionnement. Mais pour ça, il faut des moyens aussi. Et on ne les a pas. Aujourd'hui, on ne les a pas.
D'accord. Alors, moi, demain, si j'ai envie de faire un test de généalogie génétique, comment on procède, en fait, quels sont les laboratoires? En fait, en lisant votre livre, j'ai compris qu'en gros, il y avait plusieurs spécificités selon les laboratoires, chacun avait ses options différentes en fonction des demandes et des envies du demandeur, quoi, des uns et des autres. Donc, vous pourriez un peu nous éclairer là-dessus, quelle est l'offre et comment s'y retrouver?
L'offre, alors tout d'abord, je dirais on a quatre grands laboratoires en généalogie génétique qui sont à l'étranger. Et mais avant tout, il faut vraiment se poser la question de pourquoi je fais le test génétique, qu'est-ce que je veux savoir? Il faut bien déterminer ses objectifs parce qu'on choisira le test ADN, il y en a trois en fait, tests ADN différents, en fonction de ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'on veut connaître ses origines ethniques? Et là, suivant les laboratoires, il y en a qui ont 1500 zones géographiques étudiées, d'autres 1000, mais qui ne correspondront peut-être pas à la zone qui nous intéresse et nous correspond. Donc, il faut aller voir justement quelles sont les zones géographiques de chaque laboratoire. Donc, si c'est les origines ethniques, en fonction de ce qu'on sait, on va aller vers le laboratoire qui a le panel ethnique le plus pointu, le plus fin sur cette zone qui nous correspond. Mais après, est-ce que c'est de retrouver des cousins génétiques? Mais où? Si on a des origines espagnoles, aujourd'hui, on sait de façon empirique, parce que les laboratoires ne communiquent pas, c'est le secret commercial, ce sont des entreprises et donc elles ne veulent pas donner trop d'informations pour ne pas perdre de clients, mais on sait entre nous de façon empirique que, par exemple, si on a des origines espagnoles, il faut aller plutôt vers un laboratoire américain qui est bien implanté en Espagne, parce qu'on aura plus de chances de retrouver des cousins espagnols qui sont là-bas. Si on est adopté et qu'on cherche ses parents biologiques, eh bien, il n'y a pas le choix, il faut faire tous les tests pour se donner le maximum de chances de retrouver ses cousins génétiques partout. Donc, pour préciser l'offre aujourd'hui des laboratoires, il y a quatre grands laboratoires. On a, par ordre alphabétique, pour ne vexer personne, 23 et demi. On a ensuite Ancestry DNA, on a Familytree DNA et MyHeritage. Si on est d'origine entre guillemets française, sur l'Hexagone, dirais-je, il faut aller plutôt sur MyHeritage qui a fait une grande offensive en faisant des tarifs vraiment très intéressants. Et donc, beaucoup de Français ont fait MyHeritage. On va les retrouver majoritairement là-bas, en sachant que MyHeritage a aujourd'hui environ 3,9 millions de personnes qui se sont fait tester chez eux. Maintenant, si on a des origines espagnoles, ça sera plutôt chez 23andMe ou international. 23andMe, qui est américain, a un panel d'environ 12 millions de personnes qui se sont fait tester dans le monde entier. On va retrouver aussi bien Europe de l'Est, Europe tout court, américain, un peu partout dans le monde. Si on a des origines plutôt anglaises, irlandaises, écossaises, Familytree DNA est incontournable. Les Écossais, les Irlandais se sont majoritairement fait tester chez Familytree DNA, en sachant que pourtant Familytree DNA n'a que 1,9 million de testés. C'est eux qui ont le moins de personnes qui se sont fait tester. Mais ils sont incontournables pour les Irlandais, les Écossais et les Anglais. Et si on est d'origine américaine, il faut aller chez Ancestry DNA, parce qu'Ancestry DNA, c'est le leader. Ils ont 18 millions de personnes qui se sont fait tester chez eux, et ils ont le plus grand panel ethnique de résultats, puisqu'ils analysent 1500 zones géographiques. Ils vont pouvoir vous donner sur l'Union européenne vos origines détaillées. Parfois, quand vous êtes originaire, je crois que c'est en Allemagne, où ils peuvent vous donner la région d'Allemagne d'où vous venez. On ne vous dit pas vous êtes originaire d'Allemagne. On va vous dire vous êtes originaire de telle région d'Allemagne, vos ancêtres viennent de là. Et c'est eux qui ont ces résultats les plus précis.
Alors, il y a des histoires formidables où, grâce à ces tests, il y a des familles qui se retrouvent, des frères qui se retrouvent, des parents qui retrouvent leurs enfants ou des enfants qui retrouvent leurs parents.
Alors, c'est les success stories, on les adore, ces success stories, effectivement, de se dire, c'est miraculeux, on fait un test ADN et on retrouve sa famille biologique. Alors, je ne veux pas être rabat-joie, mais je dois dire la vérité dans ce contexte-là. Oui, il y a des success stories. Et si vous avez un membre de votre famille, et c'est là où il est important d'avoir le maximum de personnes qui se sont testées, un membre de votre famille proche qui s'est fait tester, alors le parent, c'est inespéré, un demi-frère ou sœur aussi, c'est génial. Mais après, si vous cherchez à vous identifier vos parents biologiques, dans la majorité des cas, vous aurez des cousins génétiques, oui, mais éloignés. Parce que tout dépend de si les personnes se sont fait tester ou pas. Si les personnes les plus proches ne se sont pas fait tester, vous allez avoir un cousin entre la troisième, cinquième génération, c'est-à-dire qu'il y a un arrière, 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 arrière grand-parent en commun avec vous. Et là, vous allez dire, ben oui, mais lequel? Et il faudra faire les techniques de généalogie génétique, qui existe, de savoir comment utiliser Chromosome X, comment utiliser ce qu'on appelle des outils tiers développés par d'autres sites internet que les laboratoires de généalogie génétique pour essayer d'identifier le parent, voire, et très souvent, et ça, les gens ne le réalisent pas, je vous l'ai dit, tout fonctionne par comparaison des arbres généalogiques. Mais si vos cousins génétiques qui sont intéressés par leur origine ethnique n'ont pas leur arbre généalogique, vous allez devoir le faire à leur place. Parce qu'ils ne sont pas intéressés par la généalogie, eux. Mais c'est vous qui êtes en demande de retrouver et d'identifier l'ancêtre commun. Donc, vous allez devoir faire l'arbre généalogique à leur place pour pouvoir le comparer et pour pouvoir identifier l'ancêtre commun.
Eh bien, merci Nathalie Jovanovic-Floricourt. Je rappelle le titre de votre livre Quoi de neuf dans la famille que vous avez coécrit avec Jean-Louis Bocarnot aux éditions Buchet-Chastel. Nathalie, est-ce que vous auriez un dernier mot à partager avec nos auditeurs?
Je trouve que il ne faut pas avoir peur des tests ADN. Voilà ce que je voudrais transmettre. Il ne faut pas avoir peur des tests ADN. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va y découvrir. Après, il faut y aller si on a une envie. C'est pas une obligation. La liberté pour chacun de le faire ou pas. Et c'est une merveilleuse aventure pour retrouver ses origines et pour découvrir des choses relativement surprenantes qui sont effectivement expliquées dans l'ouvrage avec des exemples de personnes qui découvrent ou peut-être qui ne découvrent pas d'ailleurs, qui avaient un soupçon et qui comprennent enfin d'où venait ce soupçon et pourquoi elles avaient quelque chose, un mal-être ou une interrogation à travers le test ADN. Allez-y, allez à la découverte de vous-même, allez à la découverte de vos ancêtres. C'est un merveilleux voyage que nous pouvons tous faire.
Merci beaucoup, Nathalie.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, faites-le nous savoir. Je vous rappelle le titre du dernier livre de Jean-Louis Bocarnot et de Nathalie Jovanovic-Floricourt, « Quoi de neuf dans la famille ?», paru aux éditions Buchet-Chastel. Je vous donne de mon côté rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!